se gêner, journée spéciale Coluche sur Europe 1 aujourd'hui. Alors dans On va se gêner, c'est Valérie Mérès, Maryse Gildas, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte et Pierre Bouteiller qui vous en parlent. Qui vous parle de Coluche, vous vouliez parler de sa générosité. Alors on peut réattaquer par ça si vous voulez, Maryse.
Ben je veux bien, oui. Un soir, on va dîner avec Philippe Barugazan. Parce que quand on travaillait avec Michel, il fallait vivre un peu avec lui. On est partis en vacances ensemble à l'île Maurice. Et on allait beaucoup dîner.
C'est comme Ruquier.
On allait beaucoup dîner, Rugazan. Et un soir, le premier soir en tout cas, j'étais à côté de Ludo. Et il y avait un escalier qui montait aux chambres. Et derrière l'escalier, il y avait une boîte. Vous savez, ces anciennes boîtes en fer de banania, Yabon banania, vous me rappelez? Ça, qui était derrière comme ça. Et moi qui avais l'œil un peu partout, je dis, mais c'est quoi Ludo, cette boîte derrière? Elle dit, bah va voir, ouvre et va voir. Et je vais ouvrir et il y avait plié, mais alors, comme ça, mais il y en avait énormément, des billets de 500 francs à l'époque, 85, complètement tassés, mais il y en avait. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais c'est pour ceux qui n'ont pas de fric et qui n'ont pas besoin de demander comme ça. C'est assez joli quand même, non?
Pierre,
il avait cette délicatesse-là.
Pour jouer au poker, vous alliez piquer dans la boîte de temps en temps.
Non, je ne connaissais pas cette boîte. Mais c'est ça.
Merde alors.
Ça lui ressemble bien. Moi, il me disait de temps en temps. Il m'a dit, c'est vrai que je n'ai jamais eu besoin de lui demander de me prêter de l'argent. Mais un jour, il me dit, mais alors. Le président, il m'appelait le président parce que j'étais un des rares qui se déguisait pas pour aller chez lui. Il y avait des artistes qui étaient habillés en artistes, et il y avait des bourgeois comme moi qui, quand ils arrivaient chez Coluche, se croyaient obligés d'avoir des blousons perfecto et des foulards comme ça. Tu voyais Marcel Julien, Jacques Attali qui sortaient de leur bureau capitonné
avec des bandanas
et avec des bandanas. C'était absolument grotesque.
Des bandanons.
Et moi, il me disait, le président, tu vois, lui, il ne se change jamais pour venir ici. Le président, il reste habillé en président, je vois un costume gris, une cravate, moi. Et alors, il me dit, mais le président, il gagne toujours au poker, lui. Parce qu'il savait que m'arrivait de jouer au poker. Alors je dis, ben non. Et il n'a pas de pote à qui demander quand il perd. Et c'est la seule fois où j'ai parlé. Mais sa générosité était formidable parce qu'il avait un garage, qui était un copain à lui de Montrouge, qu'il avait installé à Issy-les-Moulineaux. Et il avait des vieilles voitures américaines qu'il rachetait. Que ce mec-là lui rachetait pas cher du tout et qu'il faisait refaire, ce qui lui coûtait très très cher. Il en avait une dizaine, dont des roses, des machins, des trucs. Moi, il m'a prêté une fois une Bentley, je me souviens. C'était pas une voiture américaine, mais anglaise, je le savais. Et au bout de 4 jours, je lui ai rendu, alors que je vais lui rendre le soir, il me dit, elle lui plaît pas. J'ai dit, oui, mais enfin, il n'y a pas de raison. Mais il peut la garder, de toute façon.
Il a acheté une Impala au feu rouge de la rue François 1er, par la fenêtre. Ouais. Il a envoyé Ludo arrêter le mec au feu rouge. Et il est monté dans le bureau, on travaillait là, au premier étage, et il a acheté la voiture en 5 minutes.
Et alors, il donnait des voitures à ses copains. Un jour, il me dit, ils sont terribles. Hein. Je dis, pourquoi? Et il me parlait des nains, comme il dit. Alors, il dit, pourquoi? Ils veulent des camping-cars. Alors, je dis, oui, mais pourquoi pas? Il dit, mais des camping-cars, il n'y en a pas qu'on peut acheter à la casse, comme ça, et refaire un peu pour rire. Les camping-cars, ça vaut vachement cher. Alors, j'en ai acheté 3, déjà, pour un tel. Merde! La boîte à voiture est fermée.
Vous avez eu le droit à une voiture, vous aussi,
pas
Valérie?
Une voiture. Moi, il m'a offert une veste. Malheureusement, il aimait bien les couleurs un peu spéciales. Et il m'a offert une espèce de veste trois quarts, genre manteau, mais en vison, bleu ciel et blanc. Très, très laide. Donc, je l'ai mise un peu pour lui faire plaisir. Mais franchement, je vous avoue que je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue dans mes divers déménagements. Mais c'était terrible parce que, en effet, on pouvait pas se promener avec lui et dire. Tiens, ça me plaît. J'ai dû le faire une ou deux fois et je l'avais le soir même, donc je l'ai plus fait parce que il avait une tendance à couvrir de cadeaux les femmes.
Il pouvait acheter pour lui-même dans sa maison aussi bien un tout petit objet qui valait un prix fou, formidable. Et il avait, je me souviens, il avait mis sur le mur des tapis qu'il avait achetés à Barbès, des trucs avec des scènes de chasse. En peluche, tu sais, comme ça, violet, blanc, vert, comme ça, des trucs mais absolument horribles.
C'est ça, il aimait bien.
Monstrueux, tu vois, comme ça, comme tu vois dans certains cafés, tu vois. Et il avait ça sur tout un mur. J'ai dit, mais pourquoi tu laisses cette horreur? Ça, c'est une horreur, ça. Oh, vraiment. Ah, il s'y connaît, lui.
Justement, tiens, il y a un auditeur qui s'appelle Frédéric qui dit, est-ce que c'est Coluche qui avait emmené Valérie Mérès dans le droit de réponse que j'ai revu il y a peu sur la disparition de Charlie Hebdo, droit de réponse qui date de 1982. Dans cette émission, j'ai été surpris de voir Valérie à la table de Michel Pollack.
Non, c'était pas Michel. C'était, j'avais été invitée parce que je devais avoir un film qui sortait. Et c'était, moi, je jonglais entre les premiers films qui ne marchaient pas et Banzai et le coup du parapluie, en gros.
Hein,
voilà. C'est d'ailleurs pour ça que Banzai a été le premier film que j'ai fait avec Coluche, parce que les fois d'avant, ça n'avait pas été possible parce que je faisais justement des premiers films et il me disait toujours, allez, continue à faire tes films que personne verra. Et puis voilà.
Bah, en tout cas, c'était l'époque des provocateurs aussi. Il y avait Gainsbourg aussi, évidemment, qui faisait beaucoup parler de lui à cette époque-là. Je ne sais pas si vraiment ils se fréquentaient, Gainsbourg et Coluche.
Oui, ils voyaient beaucoup, mais ils étaient tous les deux tellement fous d'eux-mêmes que c'était un peu chiant de les voir tous les deux parce qu'ils disaient, on m'a cassé la gueule dans la rue, m'a dit un jour chez Coluche, Gainsbourg, l'autre jour, j'ai presque pas eu de retombée. Juste François, j'ai dit, mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Comment? Et moi, ça m'a toujours fasciné que l'auteur de la javanaise puisse dire, j'ai pas eu de retombée. Quand j'ai tombé. Et c'est vrai qu'il faut dire que dans Star, il y a Starlette, si on peut dire. Ça devrait être le contraire. Ça reste des petites Starlettes. Même Coluche, même Gainsbourg.
Pierre Boutet.
Non, ce que je veux ajouter, c'est que c'était un personnage extrêmement populaire. Il faut bien voir qu'à l'époque, les radios généralistes étaient bien plus écoutées qu'hélas maintenant. Et que il y avait moins d'impact de la télévision. C'était un personnage extrêmement drôle, mais il a fini, on peut le dire maintenant, on ne veut pas participer à la béatification de Saint-Coluche post-mortem, quand même, 20 ans après, c'est qu'il a fini par se prendre au sérieux aussi. Et là, je voudrais venir à sa candidature, avortée certes, mais à l'élection présidentielle. Il a un moment pensé qu'il pouvait incarner quelque chose, le tous pourri, à droite comme à gauche, il faut quelqu'un de nouveau. Il y a cru et il a inquiété. Je parle sous le contrôle de Pierre, qui est un bon analyste, Pierre Benichou, politique. Il a inquiété le personnel politique et il a eu beaucoup de pression pour se retirer parce qu'il aurait fait des dégâts. Je suis sûr que si c'était présenté à la présidentielle, il aurait fait des dégâts à droite comme à gauche.
Mais on y reviendra, ça, Coluche, candidat.
J'aurais pas dû en parler maintenant.
Non, parce qu'on était sur Gainsbourg et je voulais faire écouter Coluche imitant Serge Gainsbourg.
Il y a qu'à demander, vous
c'était ici sur Europe 1. Je vais vous apprendre, moi, comment on fait de la radio bouteille. C'était en 78.
Bon, le etc., c'est moi qui le dis, là. Il s'endorme. Allez, réveillez M. Gainsbourg, je crois qu'il dort. Les mecs enregistrent Gainsbourg. Nous allons... Vous êtes prêt, monsieur Gainsbourg? Ouais. Aïe, ah, je suis brûlé avec ma cigarette. Mais vous vous endormez, monsieur Gainsbourg? Non, je m'appuie sur ma barbe. Je vais appuyer. Allons-y, on chante. Allons-y, on chante. Attendez. Attendez. En fait, je viens de faire un sommet. Fais chier, merde, derrière, on dort. Ouais. Arrêtez, il y en a qui chantent ici. Allez voir, je crois qu'il est tombé. Mais non, il chante là. Mais il est par terre avec sa cigarette et il marche dessus. Non, mais c'est un truc, il chante. C'est... Baissez la lumière, il aime bien. Je vous assure, il est tombé, c'est pas les paroles, ça. Monsieur Gainsbourg, s'il vous plaît, venez. Vous voulez l'écouter? Non, ça va, elle est bonne. Elle est bonne.
Coluche imitant Gainsbourg, c'était sur Europe, ici en 78, c'était encore à l'époque de Robert Villard.
Ça, oui, c'est ça.
À l'époque où le générique était « On n'est pas là pour se faire engueuler ».
Voilà, c'était du Boris Vian. Oui.
Dans un instant, on écoutera Marianne Sergent qui témoignera, elle aussi, on l'aura au téléphone. Mais d'abord, une chanson de Coluche, là, cette fois, il chante vraiment, c'est mon « Everybody ».
J'étais sûr de toi, pourtant tu m'as trompé.
everybody, non pas c'est mon everybody, mon anglais n'a pas changé, vous voyez. Come on everybody, c'est Coluche qui avait écrit cette chanson. Est-ce que Marianne Sergent est en ligne? Allô Marianne?
Oui.
Bonjour Marianne Sergent.
Bonjour.
On disait de vous à l'époque presque que vous étiez la Coluche en salopette, parce que c'est vrai que votre langage était un peu vert et qu'on n'était pas habitué à ça, ni dans les radios, ni dans les télévisions. C'était votre cas aussi à vous, Marianne?
Ah non, j'étais pas la Coluche en salopette, c'est lui qui était en salopette. Moi j'étais la Coluche en jupon, il disait.
En jupon, bon.
Voilà.
Vous avez joué avec lui à la Veuve Pichard?
Oui, qui est devenu le point virgule après. J'ai joué à la Veuve Pichard, on jouait la Revanche de Louis XI. Il y avait Gérard Lanvin, Martin Lamotte, après il y a eu Roland Giraud qui a remplacé parce qu'il faisait l'évêque dans Coluche, dans la Revanche de Louis XI, qui a donné le film après où il chante le Chevalier Blanc et tout ça.
On parlait il y a quelques minutes, puisque Pierre Bouteiller nous a lancé sur ce sujet, de Coluche candidat à l'Élysée, candidat à la présidentielle. Vous l'avez bien fréquenté à ce moment-là?
Ah oui, oui, bah oui, je le voyais bien. Bah oui, j'ai fait un peu campagne avec, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les réunions tous les jours à Montsouris, dans sa grande maison, là. Tous les jours, il y avait les adhésions qui arrivaient par paquet. C'était incroyable, quoi. Parce que, à un moment, il a quand même été crédité de jusqu'à 14%, ce qui était absolument énorme. Et même les gens les plus contre lui accordaient au moins 4%, ce qui fait que ça pouvait quand même faire changer le cours des élections, quoi. Donc, il y avait plein de gens qui passaient chez lui pour lui faire des offres, des propositions, lui demander de son ralliement, quoi. Moi, j'ai vu à Thalys se mettre à genoux devant lui quand même, c'était rigolo, quoi.
Mais est-ce qu'il y croyait vraiment?
Je sais pas s'il y croyait, il y croyait pas politiquement, il s'en foutait politiquement, mais humainement il s'était rendu compte qu'il y avait un pouvoir réel, que ça concernait énormément de gens et qu'il y avait des gens de tous bords, de tous partis qui se ralliaient à ses propositions, quoi. C'est-à-dire que politiquement, à un moment, il s'était vraiment quelqu'un de dangereux, quoi. Et en fait, quand il a décroché, quoi, 15 jours, c'est vers le 25 avril, enfin par là qu'il a décroché, qu'il a dit qu'il finalement il se présentait pas. Il avait vraiment eu des menaces quand il a décidé qu'il arrêtait de faire sa campagne. Je crois qu'il aurait été jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu des menaces sur ses enfants, sur Marius et Romain, quoi.
Est-ce qu'il y a vraiment eu des menaces alors?
Je suis à peu près persuadé qu'il y a eu des menaces. J'ai pas. Enfin oui, moi j'en suis à peu près sûr.
Pierre Dinan, Pierre Bénichou.
Non, moi je suis sûr que non. Il y a eu des menaces dans sa tête. Il a eu un petit coup de paranoïa. Il a eu d'abord un petit coup de mégalo parce qu'il avait fait ce truc-là en se disant c'est formidable. Il y a les gens m'aiment tellement que si je demande de voter pour moi, les gens voteront. Et il s'est dit en plus de ça, tous les gens qui voteront pour moi sont les gens qui ne votent jamais. Et donc tous ces gens que je vais faire inscrire là, qui sont des anards, des machins comme ça, ça va faire une force nouvelle. Et cette force-là, on pourra la mettre. Il le disait pas, mais il le pensait au service de qui on voudra. Et on voyait bien de qui il aurait préféré entre Giscard d'Estaing et Mitterrand.
Donc il était
content d'avoir ce pouvoir-là. Quand les sondages ont commencé à le faire apparaître à 15, à 30, et même à 22%, une fois dans le quotidien du médecin de notre ami, le regretté Philippe Tesson, souviens-moi. Et ils étaient, les médecins disaient.
Mais le quotidien du médecin, c'est pas ce journal qui avait annoncé la mort de Marcel Dassault 8 jours avant tout le monde.
Bon, et donc, il y a un peu cru, et je crois qu'il est devenu un peu parano là-dessus, et il a cru qu'il y avait des menaces, qu'il y avait des gens.
Ouais. Moi, je le voyais tous les jours, et puis on mangeait chez lui, il y avait table ouverte tous les jours, et il n'y avait pas d'histoire de parano, c'était un mec qui était vachement équilibré.
Ah, et à ce moment-là, lui, d'accord. En fait...
Non, mais moi, je suis d'accord avec Marianne.
Eh ben, ça m'étonne pas. C'est ça que je reproche à Coluche, voilà. C'est qu'il vous avait tout le temps avec lui.
Non, non, non.
Mais là,
non.
Mais vous avez raison.
Non, non, parce que moi, j'ai pas fait partie de sa cour, comme toi, justement. Dès qu'il a eu une cour, je me suis barré. Alors, tu vois. Donc, j'aime pas les cours. Mais je pense qu'il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça par mégalomanie, contrairement à ce que certains ont tendance à croire. Il a fait ça pour montrer qu'il y avait des pourris. C'est tout. Alors maintenant, après, il a été dépassé par
remettre un peu le bordel parce
voilà.
Qu'il aimait ça.
Mais c'était pour mettre le bordel au départ, non, pas par mégalomanie.
Moi, je suis d'accord avec Valérie, mais je pense pas non plus qu'il était dépassé parce que c'était un type très intelligent, Coluche.
Voilà, exactement.
Et, en plus, à ce moment-là, il était très fatigué parce que ça. C'est 3 semaines qu'il était en grève de la faim et qu'il jouait à ce moment-là en même temps parallèlement au gymnase. Il était très fatigué. Quant à dire qu'il n'y a pas eu de menace, je ne sais pas comment il peut pas le dire. Il peut dire ça Pierre, parce que moi j'étais à côté de lui et il a vraiment changé, il a vraiment bougé beaucoup de dans son fonctionnement. Il y avait son régisseur qui avait été descendu, qui avait été assassiné un mois et demi avant. Alors après on
peut c'était un crime passionnel, c'était pas son régisseur, c'était le chauffeur du car de la tournée
et c'était un truc passionnel.
Il avait été tué à coups de fusil par sa femme.
Tu n'y étais pas, Pierre. Le problème, voilà, il est que ce type-là avait descendu. Après, on a dit, ça n'a pas de rapport ou c'est un rapport, peu importe. Toujours est-il que ça avait eu lieu et que ça fout les boules quand même quand t'as quelqu'un avec qui tu travailles depuis des années, qui est ton pote, qui est un peu ton dealer et tout ça, qui se fait descendre. Et ça avait peut-être un rapport avec le fait que ce soit son dealer. Mais indépendamment de ça, après, il y a vraiment eu des menaces sur Romain et sur Marius parce que c'est du jour au lendemain qu'il a décroché. Ça n'a pas été un truc pensé, tout d'un coup, ça y est, maintenant j'ai 30%, j'arrête, ça me fait plus rire. Ça s'est pas passé comme ça, il y a eu des menaces réelles.
Non, vous savez ce que je dis ? Non, c'est pas vrai. Hein ? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Salut Marianne.
Pierre Bouteiller.
Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, pardon Laurent, un peu trop tôt, mais c'est vrai qu'il avait, je dis pas qu'il ait pris le melon, comme on dit dans notre jargon, qu'il ait pris la grosse tête, mais il s'est pris au sérieux et ça a commencé à inquiéter. S'il y a eu des pressions sur lui, effectivement, si des gens se sont mis à ses genoux pour lui demander de se désister, le but a été atteint d'ailleurs. C'est bien parce qu'il inquiétait et qu'il pouvait effectivement rassembler sur son nom les gens qui ne votent pas et sur le thème des tous pourris.
Non, mais je pense que même s'il n'y avait pas eu de menaces éventuelles sur Marius et Romain, il serait barré quand même. Il n'aurait jamais été jusqu'au bout. Exactement. Simplement parce qu'il avait réussi à prouver que.
Voilà.
Et voilà, c'est tout. Il se serait retiré de toute façon.
Il y a eu quelque chose, c'est qu'il y a eu des flics, des renseignements généraux qui sont venus le voir et qui lui ont dit, nous sommes obligés de rester avec vous parce que il y a des menaces quand on est candidat à la présidence, il y a des menaces et on va rester avec vous. Et donc il avait des flics qui étaient là, qui tournaient et il se disait, est-ce que ce ne sont pas des agents secrets, des machins, des trucs, et c'est de là qu'il a cru, comme les flics venaient le protéger, qu'il a cru qu'il y avait des menaces. Or les flics ne venaient qu'uniquement pour faire la protection.
C'est ce qu'on t'a raconté, parce qu'après, même tout le reste de sa vie, il a toujours été surveillé par la police, tout le temps. Après.
On a même été jusqu'à dire que l'accident, hein, il y a encore cette vieille thèse, comme pour toutes les disparitions de stars, on dit qu'Elvis Presley vit encore sur une île.
Oui, Grace Kelly aussi, on
dit
ça.
Mais il y a plein de gens qui pensent que oui, quand même.
Bon. Ah ouais, moi j'ai dîné avec James Dean hier, il t'embrasse d'ailleurs.
J'ai pas compris.
Marie, c'était bien un accident, c'était pas un attentat contre Coluche.
Moi j'ai toujours pensé que c'était un accident, mais bon, c'est que mon avis. Hein.
Allez, on vous remercie, on vous embrasse Marianne pour votre témoignage. C'est certainement pendant la campagne présidentielle que Coluche a dit à 20h à la télé, quand tous les pauvres sortent du travail, on ne peut pas dire toute la vérité, sinon la majorité n'irait pas retravailler le lendemain. Allez, on se retrouve après la pub.